Eh bien, merci Amnesty, on prend le relais à 20h passées de quelques minutes sur Principe Actif. C'est le laboratoire qui ouvre ses portes et comme la semaine dernière, un invité ce soir, même deux invités, pour une émission spéciale, pas vraiment une carte blanche, mais une recension d'un livre qui vient de paraître et dont on va parler ce soir avec l'auteur Thierry Jourdain qui était déjà venu dans l'émission. Salut Thierry.
Bonsoir.
Thierry Jourdain qui sort un livre tout récemment, c'est sorti il y a quelques jours, une dizaine de jours, un truc comme ça.
Ouais, le 22 novembre.
Le 22 novembre, ça s'appelle Elliott Smith Can't Make a Sound. Et c'est un livre donc consacré à ce musicien fondamental pour pas mal d'amoureux de la folk. Fondamental aussi pour cette émission qui le chérit depuis longtemps. Fondamental aussi pour l'éducation de beaucoup de monde, pour ceux qui écoutent la musique indépendante depuis maintenant 10, 20, 30 ans. Il a commencé donc il y a longtemps, maintenant il y a presque 30 ans, il a commencé sa carrière, à peu près, c'est ça?
Ouais, hein, des années 80.
À la fin des années 80. On va parler de lui ce soir en compagnie aussi de Yann Lafosse qui est avec nous et qui accompagne Thierry dans une petite tournée promotionnelle de ce livre dans ses débuts. Bonjour Yann.
Bonjour.
on va parler de lui, on va évoquer donc cette façon que tu as eu de saisir sa carrière à travers ce livre et peut-être commencer ce soir par un petit point sur... Alors, moi j'avais plusieurs questions d'abord pour, en tant que lecteur, curiosité pour ce travail que tu fais. Donc tu t'es venu dans l'émission pour parler de Bruce Springsteen il y a quelques temps. Tu avais sorti un livre sur une période bien précise de la carrière de Bruce Springsteen. Et tu étais venu nous en parler. Et là tu sors un nouveau livre sur Elliott Smith. Je sais qu'il y en a d'autres en préparation. Comment ça se passe la préparation d'un livre sur un musicien Là, je sais que ce livre, il est un petit peu, il couvre toute la carrière d'Elliott Smith et il passe par tous les albums un par un. Est-ce que cette forme, elle détermine les recherches, les choses que tu trouves, ou alors au contraire, est-ce que c'est un fouillis au départ avec plein d'interviews éparses que tu rassembles? Quel est le matériel en fait que tu as sous les mains?
C'est un peu différent à chaque fois, en fait. C'est un peu la manière dont j'écoute et j'aime l'artiste qui va un peu déterminer mon mode opératoire, en fait, pour écrire sur lui. Pour Elliott Smith, c'est assez particulier, c'est que je suis en train d'écrire, en fait, un livre sur REM. Ça fait déjà quelques temps. Et pour pas saturer, pour pas trop insister, des fois, je fais des pauses. Et ouais. Au lieu de faire des pauses et... d'aller faire autre chose, je continue d'écrire, mais sur d'autres artistes, et du coup, Elliott Smith est tombé à l'occasion d'une de ses pauses. Je me suis mis à l'écouter de manière assez compulsive, et je me suis mis à prendre des notes, à me documenter de plus en plus, et à un moment donné, je me suis dit, quitte à faire tout ça, autant faire quelque chose, et voilà, ça a donné le livre.
Donc, se documenter, il y a plein de références bibliographiques dans le livre, ça veut dire aller vers les interviews des magazines français qui ont donné, je sais que tu parles des Inrecuptibles qui ont saisi un petit peu assez tôt le génie d'Elliott Smith. Tu vas compléter des archives anglaises aussi.
Malheureusement, donc pour Elliott Smith, forcément, j'ai pas pu l'interviewer lui ni les personnes très proches de lui. Donc, il a fallu que je me base sur ce qui avait été écrit ou ce qui avait été dit sur lui ou par lui. Très peu de livres en fait existent. Aucun en France, ouais. C'est le premier. En Europe, il y en a un en Angleterre et après deux ou trois en Amérique. Donc je les ai lus. À chaque fois que je fais une référence, une citation, c'est spécialement notifié dans le livre. Après, il y a énormément d'interviews de la presse écrite, anglaise, française, américaine, des émissions de radio. J'ai essayé un peu de passer tout en revue et puis d'en extraire la substance pour mieux étayer mon propos.
C'est un peu étonnant quand même, 15 ans après sa mort, qu'il n'y ait toujours pas plus de livres sur lui.
Il continue à y avoir des hommages, que ce soit des concerts comme ça avait pu l'être pour le Color Bars Experience en 2005, qui reprenait en fait l'album Figure 8 avec un ensemble à cordes, avec Ken Stringfellow, Troy Van Baltazar de Chuck Berry, Jason Little de Granddaddy. également des compilations en tout genre, voilà, qui rendent hommage à l'artiste. Mais c'est vrai que des livres à proprement parler, non, il n'y en avait jamais eu, en tout cas en France.
Donc, tu vas voir, tu vas questionner aussi les gens qui sont encore là et qui ont côtoyé Elliott Smith, j'imagine. Et
puis il y en a eu quelques-uns. Après, pour Elliott Smith, c'était assez compliqué puisque c'est quelqu'un de décédé depuis quelques temps, et ça ravivait en fait pas mal de choses assez violentes et assez particulières en fait pour les personnes qui ont pu le côtoyer. Donc certains n'ont pas voulu témoigner, d'autres je n'ai pas eu accès en fait à leur contact, d'autres ont témoigné mais n'ont pas voulu être cités. Donc c'était assez compliqué pour cet ouvrage là.
Et puis il y a aussi les gens qui t'ont aidé à comprendre un peu les paroles. Je pense à Yann Lafosse qui est là avec nous, donc un travail de traduction. Je sais que tu pratiques l'anglais, Yann. Tu as aidé à... Quelle était ta part en fait dans ce processus?
Globalement, je pense que Thierry a tout fait, il a tout traduit, et moi j'ai jeté un regard
de relecteur.
Voilà, et j'ai apporter quelques petits détails sur quelques mots en particulier. Mais là, le travail de traduction, c'est lui.
D'accord.
Totalement. Et j'en profite pour parler de son projet sur REM. Là, par contre, en amont, il m'a donné tous les textes sur lesquels il faut travailler. Et je lui m'aide vraiment en amont pour qu'on puisse vraiment travailler dessus. Et là, je m'investirai plus. Ouais. Là, c'est Thierry qui a... J'ai tout fait.
Tu vérifies quand même qu'il n'y ait pas de contresens.
Voilà,
comme ça.
Après, là, on a travaillé sur quelques petits détails. Quoi, voilà.
En fait, j'avais quand même une impression assez importante sur le texte d'Elliott Smith. Parce que justement, je cite une interview où lui-même expliquait toute l'importance que les mots avaient pour lui. Qu'il regrettait en fait, finalement, qu'on s'intéresse assez peu aux mots en Amérique et toujours de manière plutôt superficielle à la musique. En fait, lui aimait par exemple beaucoup Sonic Youth et il trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas un Sonic Youth démo en fait en Amérique. Quand on part sur des citations comme ça, on se dit bon, il faut être à la hauteur quand même des mots, et je voulais pas faire de contresens, ou je voulais vraiment un regard expert, en l'occurrence celui de Yann en anglais, pour juste être sûr que voilà, je disais pas de bêtises. Et puis des fois effectivement il y avait des choses complètement intraduisible, ou c'était très compliqué à expliquer pourquoi c'était pas traduisible. Et donc Yann a apporté vraiment son regard d'anglophone expert.
J'espère qu'on aura l'occasion, oui, effectivement, de pointer ces petits moments où les mots sont à double sens, peut-être, pour Elliott Smith, et en quoi ça révèle des choses sur ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait cacher, ou ce qu'il voulait pas mettre en lumière. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, je trouve, c'est que, comme dans le précédent, il y a une grande part qui est faite aux paroles. Hein, on peut dire que sans cesse, tu t'en reviens aux mots, tu mets les paroles en anglais et la traduction en français. Donc,
oui, je voulais vraiment partir de l'œuvre, en fait, pas être dans le versant polémique ou racoleur, surtout pas. C'était vraiment partir de la matière première, donc ses textes et sa musique, parce que j'ai eu la chance que Yann corrobore en fait mes traductions, mais j'étais également été aidé par un ami également commun, Sébastien de la Maison Tellier, Sébastien Miel, qui lui en fait a vraiment fait un travail d'analyse musicale sur beaucoup de chansons pour encore un coup étayer le propos.
Bon, on va laisser aussi de la place à la musique ce soir, forcément, histoire de faire entendre aussi un petit peu ce que ça donne, cette musique d'Elliott Smith. Alors, t'as choisi d'apporter aussi avec toi des choses qui sont peut-être des influences majeures pour Elliott Smith. On en parlait un petit peu en arrivant à l'émission. On va passer deux titres qui sont... parmi ceux qui ont le plus compté, peut-être, ou en tout cas dans ses débuts, tu peux nous en parler, ou tu veux qu'on écoute d'abord et puis on en parle après.
Non, c'est juste dire que, avant tout, Elliott Smith était vraiment fan des Beatles, donc on aurait pu en passer plein. Là, en l'occurrence, c'est vraiment celle qui a été un peu déclencheur de tout, et de son amour pour la musique, et en même temps, son envie d'en faire. Voilà, Helter Skelter.
to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop.
Sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But
We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Alors, deux facettes de ces influences, les Beatles. Alors, c'est drôle parce que dans le livre, quand je l'ai commencé à le lire, il y a un moment où tu dis que ces grosses influences sont Ringo Starr et Elvis Costello. J'étais surpris par la référence à Ringo Starr, mais en fait, ça nous ramène aux Beatles. Et donc, on a écouté un extrait de l'album blanc, Helter Skelter. Oui. Ça fait 50 ans qu'il est publié ce disque. Oui, il n'y a pas de question.
Je cherche le point d'interrogation.
Il n'y a pas de question. Non, la question, c'est pourquoi Ringo Starr ? C'est étonnant. Enfin, est-ce que tu as une réponse là-dessus ou...
Non, il n'y en a pas plus que ça. C'est que selon les interviews, il citait individuellement chacun des Beatles. En fait, il était je pense, plus fan du duo. McCartney, Lennon, on sentait aussi bien l'influence George Harrison, et je pense pour pas laisser en reste le dernier Ringo, il a aussi pris bon de le citer, mais bon, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une œuvre un peu moins influente sur les groupes.
Et moi, j'aime bien ce qu'il dit sur les Beatles. À un moment, il dit je ne comprends pas qu'au sein des Beatles, on veuille séparer la facette Lennon de la facette McCartney, que l'on soit suffisamment manichéen pour penser que ça se résume à une lutte entre les ballades mièvres et les chansons âpres. Les deux marchent parfaitement ensemble. À 5 ans, je suis allé pour la première fois passer des vacances chez mon père après le divorce de mes parents. À l'époque, il était hippie, il revenait du Vietnam et était une véritable énigme pour moi. Après, il parle de son père. Bon, on pourra peut-être enchaîner là-dessus, mais... ce côté ne pas séparer Lennon McCartney, considérer que c'est une alchimie et que voilà, c'est un peu puéril de vouloir se battre là-dessus. Moi j'aime bien ce côté-là, cette référence-là. Donc les Beatles, ça va se vérifier dans toute sa carrière. Il va reprendre Because, il va reprendre Jealous Guy, je crois. Il va reprendre des
Lang 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 également, qui sera la dernière chanson qu'il interprétera de son vivant, de George Harrison. Et donc on a entendu donc également une chanson de Bob Dylan. C'était aussi une des références importantes pour lui. En fait, c'était l'un des premiers disques que lui a fait écouter son père pour lui apprendre à jouer de la guitare.
Quand on écoute Elliott Smith, on se dit qu'il a vraiment pris les leçons de ça, parce qu'il joue beaucoup en fingerpicking ou en... Enfin, il y a le jeu de guitare d'Elvis Smith.
Ce que tu disais sur Lennon McCartney, c'est vrai que les albums très intéressants, c'est souvent des albums comme le premier Velvet, où tu as à la fois du noir, du répétitif et de la pop. Enfin, toi, t'as tout dans un album. T'as la vie. Et le Double Blanc, par exemple, c'est exactement ça. T'as dans tous les sens. C'est sans doute les albums les plus beaux. Hein. Enfin,
ouais.
Moi, ça m'a pris du temps à accepter, mais c'est ça. Et dans Elliott Smith, tu as à la fois le côté très noir des textes, c'est extrêmement dépressif, et la musique, elle est aussi assez... tu peux l'entendre comme quelque chose de joli, pop, mais t'as les deux niveaux, et c'est ça qui est sans doute très fort.
C'est extrêmement lumineux. Voilà. Moi, j'avais noté...
Et les deux facettes se renforcent mutuellement, justement, parce qu'il y a du lumineux et du noir dans la même chanson.
Tout à fait. Moi, j'avais noté trois mots, en fait, qui me revenaient à la lecture de ton livre, c'est noirceur, délicatesse et virtuosité. Mais en fait, il n'y a pas que noirceur, il y a aussi luminosité.
C'est justement, en préparant un peu l'émission, en fait, justement, je voulais vraiment mettre en avant ces deux facettes-là. Et pour moi, il y a autant la lumière que la noirceur. Voilà. Dans sa musique et dans sa personnalité. La joie, la dépression, l'obscurité et la luminosité. Comme disait Yann, ces paroles... pourquoi tu rigoles? Ah non, on a dit qu'on allait être sérieux ce soir. Pourquoi tu rigoles?
Il y a cette citation, pour exactement illustrer ce que tu dis, une citation d'Eliot Smith, page 66 de ton livre. « Mais je ne fais pas de la musique parce que je suis quelqu'un de torturé. Je ne suis pas plus triste que les autres personnes que je connais. Il y a certaines de mes chansons qui sont tristes, d'accord, mais ce n'est pas ce qui est le plus important en elles. Les gens ne veulent pas y voir la présence de la joie. Tout dépend de votre point de vue. Quelque chose qui vous rend triste peut tout aussi bien rendre quelqu'un d'autre heureux. » Ça résume un petit peu l'ambition musicale d'Eliot Smith. Alors, on dit un petit mot de ses débuts, qui sont un peu, comme souvent les débuts, un peu partagés entre plein de projets. Il forme des petits groupes. Il participe à Hit Miser, qui est peut-être le groupe qui est le plus porté dans ses débuts. Tu peux en dire deux mots?
Oui, alors après avoir monté plein de groupes, en fait, à l'occasion de ses études avec des copains, il finit par garder une formation un certain nombre d'années, donc Hit Miser, avec des amis d'enfance, donc un rock plus classique, en fait, plus abrasif, un son toute guitare saturée.
Mais qui a du mal à se situer quand même au début. Tu dis que bon, il y a Nirvana qui arrive, enfin il y a le grunge qui arrive et on n'arrive pas à les situer bien, ils sont un peu le cul entre deux chaises, là, j'ai l'impression.
Ouais, à cette époque-là, en fait, c'était un peu entre le rock assez violent de Nirvana et toute cette vague-là, et puis eux, un côté un peu plus sentimental. Alors, le emo n'existait pas encore vraiment, donc on ne savait pas trop quoi faire de ce groupe-là. Et du coup, il est un peu passé, finalement, à la trappe et en marge de tous les autres qui, eux, ont été un peu plus popularisés.
Mais ils arrivent quand même à trouver des contrats. Ils arrivent quand même à...
Ouais, alors, en toute fin de vie, finalement, le groupe signe sur une filiale de Virgin. Et c'est ce qui cause, finalement, un peu, même la fin, en fait. Déjà, Elliott Smith a trouvé que c'était pas dans ses principes et dans ses envies, etc., de finalement se vendre à une major. Donc, c'est ce qui a précipité aussi la fin du groupe.
Ils ne s'y retrouvent pas, quoi.
Ouais.
On va les écouter. Tu nous as apporté un titre qui s'appelle...
Ça s'appelle See You Later, sur le dernier album.
Et puis on enchaînera avec un titre d'Eliott Smith alors. Alors, on se disait que on n'était pas forcément dans le côté abrasif des guitares qu'on avait annoncé un peu au début. Pourtant, c'était Hit Miser.
Ouais, ouais. C'était la dernière chanson du dernier album d'Hit Miser qui était tout sauf abrasif, effectivement. Qui était arrivé vraiment, finalement, au bout d'un parcours. Elliott Smith voulait vraiment aller sur ses compositions solo, acoustiques, etc. Et il avait quasiment imposé au groupe de pouvoir avoir une part entière à lui sur ce dernier album.
Mais ça s'explique aussi parce que ce que tu viens de me dire hors antenne, c'est que ça arrive après deux albums solo, les deux premiers albums solo d'Elliott Smith. Donc il a eu le temps à côté de mûrir son quelque chose d'autre et du coup ça déteint forcément sur cet album-là. Alors.
Ouais, les deux premiers albums étaient sortis l'année d'avant, enfin l'année précédente, et du coup cet album-ci en fait s'intercalait entre son album éponyme Elliott Smith et Either Or. Et finalement, les chansons que lui livrait dans l'album étaient vraiment dans la pure tradition de ce qu'il faisait déjà tout seul.
Donc deux premiers albums, moi que je trouve magnifiques, mais qui ne le permettent pas d'avoir un grand succès encore. Il enregistre ça dans des conditions très lo-fi, tu dis dans le livre qu'il a un micro bon marché, qu'il a pas forcément les guitares, on lui prête des choses. Il sort ça un peu brut, de manière un peu brute, un peu.
Complètement. Il le sort même pas, puisque c'était même pas destiné à être produit, sorti. En fait, le premier album, il l'enregistre vraiment pour son pur plaisir, justement, parce qu'il est pas du tout satisfait de ce qu'il fait avec Hit Miser. Donc, plutôt que de faire que des choses qui ne lui correspondent pas, en fait, pour son propre plaisir, il se met à enregistrer des versions acoustiques, des petites choses. Sa copine de l'époque trouve que c'est un gâchis en fait de garder ça, de même pas tenter de le faire écouter à quelqu'un, et de son propre chef en fait l'envoie à des amis qui ont un label, et le label tombe tout de suite sous le charme des compositions et veut immédiatement sortir son premier album sans qu'Elliott Smith ait le moindre besoin de demander quoi que ce soit
ou de refaire quelques prises que ce soit. Ils le veulent tel quel.
Voilà,
ouais. Génial. Et donc, on retrouve sur le Roman Candle, donc le premier, tout premier, c'est ça, hein.
Ouais.
Il y a même des chansons qui n'ont pas de titre et
il
marque No Name 1, No Name 2,
ouais.
Il y a comme ça 4.
C'est incroyable, ça témoigne vraiment de l'instantanéité, de la spontanéité, finalement, de ces compositions qui n'ont même pas de titre et aussi de sa modestie, de même pas avoir l'idée de mettre un titre sur certaines pépites comme... No Name 2, No Name 3, finalement, on se retrouve à donner des numéros à des chansons qui vraiment existent individuellement, qui ne sont même pas une suite.
Donc on invite vraiment les auditeurs à aller écouter ses premiers albums. Ce qu'on va écouter maintenant, Between the Bars, c'est la bascule dans le son... Alors, je ne sais plus comment tu le qualifies dans le livre, mais peut-être le premier accomplissement, cet album Either Or.
Qui est... Pour moi, c'est son dernier album un peu artisanal, avant vraiment la bascule sur quelque chose de très produit. C'est surtout pour moi, en fait, son premier vrai chef-d'œuvre.
Un petit mot, Yann, sur le titre, Either Or, ou bien, c'est ça comme ça que je crois qu'il est traduit dans le livre, avec une référence à Kierkegaard.
Kierkegaard, effectivement, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avoue que la référence à Kierkegaard, on va laisser Thierry vous expliquer tout ça, mais effectivement.
Elle est volontaire, c'est une source que tu as eue manière certaine.
Oui.
C'est le livre, c'est le titre du livre de Kierkegaard en anglais.
Oui, ouais, d'accord. Ou bien. En fait, Elliott Smith était diplômé en philosophie, donc vraiment quelqu'un de brillant, très intellectuel. Qui lisait beaucoup et qui donc avait vraiment une appétence en fait pour la philosophie, notamment Kierkegaard. Donc Either Or pour lui ça résumait assez bien le propos en fait de son troisième album.
Alors je vais tourner vers toi, Yann, parce qu'il y a aussi des petits jeux dans les paroles de Between the Bar qu'on va écouter. Tu peux nous en dire un mot sur
le titre? Déjà, je pense que bar, c'est à la fois les barreaux quand on est emprisonné, et puis bar, c'est des bars, et donc aussi l'emprisonnement dans l'addiction. Je pense que le personnage doit parler à un personnage féminin en disant on s'aimera entre les barreaux ou entre les bars. Est-ce que c'est d'un bar à un autre dans une tournée des bars ou en étant dans une addiction à l'alcool? Tout ça est dit dans le titre.
Ouais. Et après, c'est une sorte de balade un peu aigre sur...
C'est une valse, hein, c'est un trois temps, je pense, à la chanson. Et, donc voilà.
On l'écoute alors.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't. Kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart deep in my heart, separate from the rest. You the best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still.
Un des grands chefs-d'œuvre d'Elliot Smith, cette chanson Between the Bars, énormément reprise, peut-être moins que Waltz 2 comme tu me disais à l'instant, mais énormément reprise. Et mm-hmm. voilà, donc je suis content qu'on ait eu l'éclairage aussi de la traduction. On en rajoute peut-être un petit peu plus sur cette idée de ou bien, de, le titre de l'album. Yann, tu disais que il y avait dans ce ou bien, il y avait quelque chose qui disait beaucoup de choses sur Elliot Smith.
Bah, en fait, je me suis rendu compte en lisant les textes que mettait en avant Thierry, et même en... Bah, donc moi, j'ai repris une autre chanson qui s'appelle Needle in the Hay, et il y a toujours un dédoublement, le personnage, même si là, il y a un personnage féminin, il parle à quelqu'un d'autre, mais visiblement, il se parle aussi à lui-même, comme si le « et » ou bien « either or », c'était deux versions de sa propre personnalité dans les chansons. Et puis on parlait aussi tout à l'heure de Lennon McCartney, de pas choisir entre la noirceur et la douceur ou la beauté. Enfin, il y a tout ça constamment... Dans la musique, dans les textes, voilà, et dans la chanson donc Needle in the Hay, donc que je ferai tout à l'heure dans la version de la reprise que j'ai travaillée, il y a un personnage masculin qui serait le dealer, parce que c'est une histoire encore d'addiction et de drogue, et mais c'est lui-même, il se court après, enfin il va chercher un personnage qui est lui-même. On ne sait pas qui est qui, enfin il y a toujours un dédoublement, me semble-t-il, dans les textes.
Oui, et puis on parlait aussi de l'album en général, du fait que le style était vraiment à mi-chemin entre la lofi, l'économie de moyens sombre des débuts, et puis également un son beaucoup plus produit en fait des deux autres qui vont suivre. Il était aussi partagé entre ou bien quelque chose de simple et intime, ou bien quelque chose de plus produit, avec plus d'arrangements, voilà, comme ce qu'ont pu faire les Beatles, Bob Dylan, etc. également en leur époque.
Et ça se vérifie à la fin de sa carrière où tu dis que dans les années qui vont séparer le dernier album de sa mort, il va y avoir un moment où il va revenir à des choses plus fondamentales qu'il avait connues dans ses débuts.
Ouais, plus simple en fait, après être passé par vraiment toute une période surmédiatisée avec les financements lui permettant de faire X arrangements, X versions avec des pistes incalculables d'instruments. Finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été aussi bon et aussi direct que dans la simplicité. Donc c'est quelque chose vers laquelle il voulait revenir.
On écoute un deuxième titre de cet album, Ezor. Ça s'appelle Say Yes.
I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up. I didn't know I'd be around the morning after. It's always been wait and see, a happy day, and then you pay and feel like shit the morning after. But now I feel changed around, and instead of falling down, I'm standing up the morning after. Situations get fucked up, turned around sooner or later. I could be another fool or an exception to the rule. You tell me the morning after. Crooked spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. I'll probably be the last to know. No one says until it shows. See how it is. They want you or they don't. Say yeah. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after.
Quelle beauté!
Donc oui, c'était CIS. Donc cette chanson-là, c'est la dernière chanson de l'album Eyes Are Or. Et à elle seule, en fait, elle parle de tout ce qui touche en fait à un peu la mythologie d'Eliot Smith. Elle parle de relations humaines, de relations amoureuses. Elle parle de la solitude et de la mort également. Donc finalement, c'est une chanson toute simple et toute dépouillée, mais qui vraiment rend compte vraiment de ce que dégageait Eliot Smith. C'est aussi une chanson des plus intimes en fait de lui.
Il parle d'une rupture qui vient d'avoir lieu, je crois.
Ouais. Même en fait, il écrit à peine la rupture arrivée. Voilà, sa petite amie de l'époque, en fait, et quand il l'écrit, ils viennent juste de rompre. Il n'avait jamais été aussi amoureux. Tout ce qu'il veut à ce moment-là, en fait, c'est la faire revenir et qu'ils se remettent ensemble, tout simplement. Ça n'arrivera pas. Et il culpabilise d'avoir raté tout. Il l'exprime à travers cette chanson. Voilà. En fait, dans la chanson, il évoque le fait que parfois une seule personne peut finalement bouleverser toute une vie, peut changer les choses en un rien de temps. Et en fait, il culpabilise d'avoir un peu tout raté. Il fait cette chanson, Say Yes, donc dis oui. Mm-hmm. Bon, voilà, ce sera une fin de non-recevoir.
Avant peut-être d'aborder les albums de la suite qui sont, donc, comme tu l'as dit, beaucoup plus produits, je retiens ces mots que tu as mis dans ton livre sur... justement cette façon de jouer qu'il a et de composer. Les doigts crissent sur les frettes et le frisson s'installe à la première écoute. L'inventivité de ce jeu n'est en rien démonstrative. Elle est plutôt à l'image d'Eliot Smith, fine et discrète. Mais une subtile énergie grunge est tout de même toujours là. La voix, elle, se fait bouleversante, sans phare. Alors tu parles d'un morceau précédent, mais je trouve que ça convient bien avec ce qu'on vient d'entendre.
Alors ça fait partie justement des collaborations qui ont pu y avoir sur le livre. En fait, c'est à partir d'analyse donc musicale de mon camarade Sébastien. Et finalement, ça étaye totalement le propos en fait, parce que Eliot Smith, il pourrait exprimer tous ses sentiments dans la rage et la fureur en fait de l'époque du grunge. Il préfère le faire dans le calme et la fragilité. Pour lui, pas besoin de remettre une caisse en fait dans la violence et dans la souffrance. Yann évoquait tout à l'heure, plutôt que de faire une musique déprimante sur des paroles déprimantes, bon bah il a choisi au moins, il a eu l'élégance et la délicatesse d'aller plutôt sur un versant pop et joyeux, voilà, pour décrire en fait tous les mots qui pouvaient l'habiter.
Mmh. On écoute un morceau de l'album suivant, Walls 2, avant peut-être bientôt de donner la parole et la voix à Yann Lafosse, parce qu'on ne l'a pas annoncé, mais il est venu avec un harmonium et il va nous interpréter une ou deux reprises d'Eliott Smith.
Bah oui, alors Yann Lafosse, c'est aussi Mind of Eye, qui est donc un one-man band. Donc avant d'être traducteur, Yann est artiste avant tout, avec ses propres compositions depuis longtemps, avec anciennement son groupe Dirge et depuis quelques années son projet Mind of Eye. Et il me fait le grand plaisir en fait de venir l'année prochaine avec moi et également une autre artiste, White Velvet, dont on va parler, oui, pour toute une série de rencontres et de musicales et littéraires. Et donc pour l'occasion, Yann a travaillé une reprise qu'il va interpréter tout à l'heure, Needle in the Hay. Et également, comme c'est aussi l'occasion de mettre un petit coup de projecteur sur voilà, des gens qu'on aime et qui sont talentueux, également il interprétera une chanson d'un de ses albums.
Très bien, eh bien on écoute d'abord Waltz 2, qui est une des plus connues d'Eliott Smith et une des plus belles.
Where I make no mistake. contains. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you
tout ému dans le studio par cette reprise habitée de d'Eliot Smith sur un morceau qui s'appelle Needle in the Hay. Merci beaucoup Minor Thigh, merci Yann pour cette interprétation. Alors peut-être avant d'en venir au projet de reprise, oui, tu voulais dire quelque chose ?
Non, juste, c'est encore un bon exemple en fait de la difficulté de traduire les paroles, et pour le coup justement un des vers de la chanson en fait exprime bien. Alors je vais laisser plutôt le.
Ah oui, à la fin, un personnage dit You ought to be proud I'm getting good marks. Alors, c'est-à-dire, tu devrais être fier de moi parce que j'ai de bonnes notes, marks, des notes chiffrées et des bonnes. Je me suis pris des coups de
d'aiguilles
parce que, voilà, parce que j'ai des marques parce que je me drogue, ouais. Voilà, donc c'est un double sens, ouais. Voilà.
Needle in the hay, c'est une aiguille dans une meule de foin en fait, donc au-delà simplement de voilà, de la référence aux addictions, c'est aussi lui qui se cherche, qui a du mal à se trouver. Et comme Yann disait tout à l'heure très justement, bien souvent en fait c'est des personnages qui l'endossent, et donc là en l'occurrence le personnage de la chanson va voir son dealer, enfin, il marche, il fait des tours, des pâtés de maison, en fait, il descend les escaliers, etc., pour aller jusqu'à la personne, sans jamais expliciter plus que ça, mais on le comprend. Ou il dit, voilà, je peux pas me battre contre moi-même, j'ai pas envie d'en parler, je prends mon vaccin, je peux maintenant être calme, mais laissez-moi seul. Et donc voilà, tu peux être fier parce que j'ai de bonnes notes, effectivement, ou de bonnes marques. Voilà, les deux sens sont possibles en anglais, c'est plus compliqué pour nous, voilà, français.
Alors peut-être avant d'en venir au projet qui t'a amené à reprendre cette chanson de compilation, un petit mot juste sur si les gens veulent découvrir un peu Minor Thigh, est-ce qu'il y a des endroits et des lieux qui vont t'accueillir prochainement?
Alors,
dans la région?
Oui, dans la région, autour du livre de...
Oh non, pas forcément.
De Thierry, moi je serai à Évreux, donc à Gibert, hein, c'est ça, à un moment. Bah,
on a deux dates livre avec Yann. En fait, Yann va vraiment accompagner toutes les rencontres en 2019, donc il y a plus d'une vingtaine de dates au cours desquelles il fera quelques chansons. Effectivement, il y a les deux premières, c'est les 19 et 20, ou ouais, c'est ça.
Au Calife,
le 18 janvier au Calife,
le vendredi, et le samedi à Gibert, à Évreux, voilà.
Ouais, on appelle tous les Ébreuiciens à aller écouter la rencontre qui aura lieu là.
Et peut-être un autre concert plus tard dans l'année. Pour l'instant, voilà, puis après, on en parlera tout à l'heure, d'autres dates autour du livre de Thierry. J'en profite pour dire que je sors un album aussi, j'aurai d'autres dates, voilà, c'est en cours de
une page Facebook.
De calage, voilà. Facebook, Bandcamp.
Bon,
pour écouter mes albums.
Voilà. Minor Thigh.
Voilà.
Très bien. Oui, donc, le projet de la reprise, en fait, tu l'as initié, Thierry Jourdain, avec des demandes à plein de... Alors, pas forcément des groupes de la région. Ça va jusqu'à Bordeaux, avec Julien Prat. Il y a plein d'artistes qui ont répondu à l'appel de cette compilation que tu as voulu...
Ouais, l'idée c'était, en fait on avait déjà fait ça avec quelques artistes dans l'association Équilibre Fragile, dans laquelle je suis avec Yann notamment, pour Chalkboard entre autres, de faire voilà, des compilations. Alors c'est gratuit, offert en digital, etc. C'est pas du tout le principe de vendre quelque chose, pour le plaisir en fait de rendre hommage à des artistes qu'on aime. Et voilà, j'ai eu l'idée, en fait, conjointement à la sortie du disque, de réitérer l'expérience et de proposer à des amis artistes que j'admire et que je respecte de faire une reprise. Alors certains n'ont pas pu, certains n'ont pas voulu, parce que justement, ça reste aussi quelqu'un d'important, et donc qu'on n'ose pas forcément trop approcher ou toucher, parce qu'il y a quand même une pression quand on est musicien pour reprendre Eliot Smith.
Right.
Et voilà, d'ailleurs... Alors c'est assez incroyable puisque autour de cette table, il n'y a que des personnes qui ont repris Eliot Smith dans la compilation. Ce cher Tremolo qui est entre autres présentateur, Yann Lafosse donc de Minor Thigh, et également Yann Elias qui salue...
aux photos.
Qui salue je crois ce soir Frédéric Louvard, très chaleureusement, donc qui est du groupe Le Goût Acide des Conservateurs. Voilà, chacun d'entre vous avait ma foi fait une magnifique reprise.
Donc aussi. Le Guassi des conservateurs, oui, qui sera aussi à Gibert le 19 janvier prochain.
Si on l'entend pas, c'est parce qu'il a pas de micro, hein, Yann Elias.
Bah oui, mais c'est imprévu, tu l'interpelles.
Ouais, mais je voulais lui rendre hommage ce soir.
Alors, oui, donc beau projet, belle compilation, variété de styles, et on retrouve ça gratuitement sur le Bandcamp de L'Équilibre Fragile.
L'Équilibre Fragile,
ça
ouais, c'est ça, tout à fait. Okay. Donc, une quinzaine de groupes, un peu partout en France, des Parisiens, des Rouennais, des Havrais, des Hébroïciens, des gens.
Des Bordelais, et des
Bordeaux,
Américains aussi, non?
Il y a Ken Stringfellow et Troy Van Balthazar qui ont offert une des reprises, en fait. Ils avaient fait des versions démo, en fait, qu'ils avaient fait pour le projet Color Bars Experience, avec la gentillesse et vraiment la générosité de l'investigateur du projet, Yann Debiak, voilà, qui a bien voulu, en fait, partager avec moi ces démos.
Il y a du beau monde.
Voilà, Krenoka, qui a fait une magnifique reprise de Between the Bars, voilà, qui est de Tours. Voilà, Yvonne Lanuit, Baptiste Hamon, Baptiste, voilà, plein de personnes, et humainement et artistiquement formidables.
On mettra le lien sur la page Facebook du laboratoire, Trémolo, le laboratoire, et on écoute justement un extrait de cette compilation.
Oui, alors c'est la deuxième artiste, donc comme j'ai pu le dire, qui va m'accompagner, en fait, l'année prochaine sur une bonne quinzaine de dates, en fait, pour parler du livre. Donc en l'occurrence, White Velvet, qui sort bientôt toute une succession de plusieurs singles à partir de janvier. Mm-hmm. Donc Juliette Richards, qui avait pu participer à de nombreux projets sur Le Havre, et là c'est son projet, son véritable premier projet solo. Donc voilà.
On l'écoute dans une reprise de Somebody That I Used to Know. Voilà ce que ça, un petit aperçu de ce que ça donnera à ceux qui auront envie d'aller écouter cette compilation d'Équilibre Fragile autour d'Eliott Smith et à l'occasion de la parution du livre qui nous occupe ce soir, Can't Make a Sound de Thierry Jourdain. Eliott Smith publié, on ne l'a pas encore dit, aux éditions Le Mot et le Reste, tout récemment, c'est tout frais.
Ouais, pour la modique somme de 17€, c'est
rien.
C'est quoi, c'est deux pintes aux trois pièces?
Ouais, c'est un paquet et demi de clopes.
Un paquet et demi de clopes, quoi. Bon. C'est un litre d'essence.
Voilà. Un gilet jaune et demi. Alors, il nous reste des choses à évoquer quand même sur Eliott Smith. Tu avais envie de parler de ce titre?
Oui, alors je pouvais éventuellement vous donner quelques petites infos. Donc, Somebody That I Used to Know. On est encore dans la thématique de la séparation et de la rupture amoureuse. Voilà, dans ce titre, en fait, on ne sait pas trop si le narrateur, en fait, met lui-même un terme à sa relation ou si, en fait, il subit. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que les deux donnent l'impression de surmonter la rupture. Et tous les deux ont l'impression d'être fautifs. Tout leur passé commun semble avoir jamais existé, effacé par ce qui se passe aujourd'hui. lui prendre la distance. Il renie pas forcément ce qui s'est passé, mais bon, voilà, il semble avoir déjà tourné la page pour montrer un peu aussi l'évolution en fait de la chanson de tout à l'heure, C'est Yes, où il était vraiment voilà, au bout de sa vie. Donc c'était en 97 et là on est en 2000 sur l'album Figure 8, voilà, où il a fait aussi son bout de chemin, où la célébrité est également arrivée.
Qui est son dernier album
de son vivant.
De son vivant.
Ouais, ouais. Ouais.
Parce qu'après il y aura pas mal de choses posthumes qui vont paraître,
ouais.
Des albums qui récapitulent les chutes de son parcours du début.
Ouais, ouais. Il y a New Moon en fait qui, en fait c'est souvent les ressorties, c'est souvent des affaires de label, du coup. New Moon, en fait, ça reprend en fait les chansons mises de côté pour son deuxième album et son troisième album, qui était sur Kill Rock Stars. Voilà.
Le
et
label.
Puis, ouais. Et après, il y aura un album posthume également qui va sortir issu de 3 ans de session studio.
Après Figure 8.
Ouais. Ouais.
Avant sa mort.
Ouais. Enfin, non, après sa mort.
Oui, il va sortir après sa mort, mais ça retrace ce qui est entre Figure 8 et sa mort.
C'est vrai, pardon. Ouais. C'est vrai, parce qu'après sa mort, globalement, il a arrêté de jouer.
Globalement. On écoutera peut-être Figure 8 après, ou non, tout de suite, Can't Make a Sound. Alors, non, ça c'est...
Écoutez, c'est vous le taulier.
Allons-y alors.
Allons-y.
Donnons encore dans cette version d'Elliot Smith, plutôt dans les arrangements...
I have become a silent movie. The hero killed the clown. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Nobody knows what he's doing. Still hanging around. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. The slow motion moves me. The monologue means nothing to me. Sit back.
Un morceau extrait du dernier album d'Eliott Smith, Figure 8. Il est à l'apogée de sa gloire, on va dire, même s'il ne sait pas encore que ça ne va pas durer. Moi, j'ai trouvé dans ton livre une citation que j'ai peut-être envie de donner maintenant, parce qu'on est dans ce moment-là de l'évocation du succès d'Eliott Smith. Alors, on va parler juste après de comment il a été mis en lumière, parce qu'il y a une histoire là-dessus. Il écrit, juste après Miss Misery, donc le morceau qui va le faire découvrir, « Pourquoi moi, la plupart des gens que je connais dans des groupes écrivent des chansons qui méritent au moins autant que celle-là de grimper dans les charts ? On ne les laisse même pas les enregistrer, alors que quand j'allume la radio, je n'entends que des chansons qui ne méritent pas d'être là. Je ne veux pas que les miennes les fréquentent, je ne compte que pour du beurre dans mon succès. D'autres ont décidé pour moi. Moi, j'étais heureux d'enregistrer mes petits albums pour de minuscules labels dans mon coin. Il y a un avantage à disposer de moyens aussi réduits. Comme je n'avais que 4 pistes à la disposition de mes chansons, chaque piste devait être utilisée à bon escient. » Voilà, il y a ce côté mais relativise vraiment. Et puis, il évoque donc cette chanson Miss Misery, dont on peut peut-être dire un mot parce qu'elle est cruciale dans sa carrière, dans l'apparition qu'il a eue.
Oui, alors, en fait, Miss Misery, il avait commencé à la travailler quelques années avant. En fait, on peut en découvrir la version démo, en fait, sur la compilation dont on parlait, New Moon. Mm-hmm. C'est une chanson, en fait, qui est issue des chutes d'Either Or. Donc, en fait, tout simplement, quand le réalisateur Gus Van Sant veut faire son film Good Will Hunting et qu'il imagine une musique pour le film, il propose, en fait, à son ami Elliott Smith d'y participer.
Qu'il allait voir souvent en concert et...
Ouais, alors en fait, pour le coup, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais Elliott Smith a eu de cesse, en fait, de dire qu'il ignorait complètement le fait que Gus Van Sant était réalisateur. Tout ce qu'il savait de Gus Van Sant, c'était son pote dans les bars qu'il retrouvait assez régulièrement. Et ouais, il parlait uniquement que musique et technique et enregistrement, micro, etc., et ouais. Micro. Donc il a fini par l'accepter, en fait, mais voilà, comme quand je demande à Yann de faire une chanson, finalement, bon, alors, malheureusement pour Yann, ça finira pas dans un film qu'il portera.
Qui sait
sur la scène des Oscars, mais en tout cas, c'est le même principe, aussi généreux et bienveillant. Et du coup, il y a quelques titres de chaque album, en fait, qui se retrouvent dans le film. Mm-hmm. Une version réarrangée, orchestrée, en fait, par Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton pour Between the Bars. Et en fait, Gus Van Sant veut une chanson inédite, voilà, pour donner un intérêt supplémentaire à la bande originale, et c'est Miss Misery qui est réenregistrée pour l'occasion.
Yann, tu voulais dire quelque chose sur cette chanson?
Oui, et puis bon, donc le film a eu un succès aux Oscars. Il a été invité à la cérémonie des Oscars. Il a interprété cette chanson donc en costard blanc, comme on fait aux Oscars. Hein,
Les cheveux tout gras.
Voilà, et je pense que ça a lancé visiblement sa carrière, voilà. Et je trouvais que c'était intéressant parce que le film Will Hunting, la destinée du personnage et des scénaristes, donc Matt Damon et Ben Affleck, me semble-t-il, c'est eux qui ont écrit l'histoire.
Ouais.
Bah, ils ont été propulsés vers le succès, comme le personnage est quelqu'un qui doit faire le ménage dans une université. Donc il y a Robin Williams, qui est un prof d'université, qui découvre son potentiel. C'est quelqu'un qui est sans doute surdoué, je pense qu'il voit une équation ou un problème pour les étudiants. Eux prennent des mois, lui, résout le problème en 2 minutes. Et donc voilà, la trajectoire du personnage, celle des scénaristes, de Gus Van Sant lui-même, qui est du milieu underground du cinéma américain, et Elliott Smith, en même temps, tous ces gens-là qui sont propulsés dans la lumière. Ouais. Et je finis, je pense aussi que c'est intéressant, c'est un moment du rock américain où la scène indé alternative arrive en pleine lumière, et c'est un peu la fin aussi d'une certaine musique alternative. T'en parleras dans ton livre sur REM, je pense, mais c'est ça aussi. Il y a tout un mouvement qui vient des collèges radio début des années 80, et hop, avec Kurt Cobain, derrière, la lumière arrive sur plein de groupes d'artistes, et c'est difficile à gérer, et ça change la façon de faire du rock aux États-Unis aussi, je pense.
Peut-être avant de t'écouter une deuxième fois, Eliane, on va écouter la première version, la démo de Miss Misery, qui est sur cet album Blue Moon. Ça, elle a été énormément transformée pour le film, mais on a ce témoignage-là de...
Oui, alors en fait, ces versions à lui, c'était souvent une prise, et du coup, les autres fois où il s'est mis à les réenregistrer, finalement, ces versions de Miss Misery, en fait, n'avaient que peu à voir avec les précédentes. Mais c'est le cas pour beaucoup de chansons, en fait, d'Eliot Smith.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red and the cold pain behind my eyes it shoots back through my head with two tickets torn in half and a lot and nothing to do. But it's all right, 'cause some enchanted night I'll be with you. The tarot cards and the lines in my head tell me I'm wrong, but they're untrue. I got plans for both of us that involve a trip out of town to a place I seen in a magazine that you left lying around. I can't hold my liquor but I keep a good attitude, 'cause it's alright, some enchanted night I'll be with you. And though you'd rather see me gone than to see them come the day, I'll be waiting for you anyway. Next door TV's flashing blue, frames on the wall, it's a comedy from the 70s with the lead no one recalls. You vanished into oblivion, it's easy to do. And I cry to see when you talk to me the day you said we were through. But it's alright, some enchanted night I'll be with you.
Proud, with no shadow on the ground. the birds they sung all night. You were young, you were wild, you were so. Blind, with no shadow on the ground. And now we meet, my love. And the shadows before.
Merci, 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 merci mille fois Mariner, North Eye, Yann Lafosse pour cette deuxième interprétation live dans le laboratoire, cette fois-ci d'un morceau personnel, d'une composition.
C'est ça, ouais.
Qui s'appelle
Clock.
Clock. Merci beaucoup à toi pour, cette, pour avoir eu le courage de jouer après Elliot Smith, ce qui n'est pas évident quand on passe des morceaux comme Miss Misery qu'on a écouté juste avant. Tiré de cet album posthume New Moon. On va arriver au terme de cette émission. Avant de peut-être de conclure, on peut peut-être il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans cette émission, c'est l'histoire familiale de Elliot Smith, le poids que ça a eu et l'importance que ça a eu dans toute sa carrière. Finalement, il a trimballé pas mal de choses difficiles qu'il avait vécues dans sa jeunesse. Alors on va terminer avec un morceau qui s'appelle Happiness, mais on peut peut-être quand même encore un petit peu expliquer des choses avec ce beau-père dont il a tant parlé.
Oui, alors Elliot Smith, donc en fait c'est un des premiers en fait de la génération à avoir connu des parents divorcés, à devoir avoir affaire avec voilà, une famille recomposée, et du coup il s'est retrouvé séparé en fait entre sa mère et donc le nouveau mari de sa mère, son beau-père, qui était extrêmement violent et voilà, un côté assez alors j'ai le mot en anglais redneck, on dit comment Yann, s'il fallait traduire voilà. Et son père qui donc l'a initié à la musique, ouais. Et voilà, y a pas mal de choses, et il a eu de cesse que tout au long de sa carrière en fait à faire des références plus ou moins évidente en fait,
ouais, plus ou moins masquée,
voilà, plus ou moins masquée à cette figure du beau-père en fait,
Charlie
ouais. Alors bon, c'est pas ce qui caractérise le plus son œuvre, mais en tout cas ça, c'est vraiment le fil rouge en fait de tout ce qu'il a été, et probablement aussi de ses difficultés sociales, des maux qu'il a pu voilà, vivre tout au long de sa vie,
qui le conduit à des difficultés personnelles très très fortes qui l'ont même amené à ce qu'on appelle un suicide, qui est bon, parfois remis en question à la fin de sa vie, mais
on ne sait pas. On ne peut même pas dire qu'il est remis en question ou pas. En fait, l'enquête n'a jamais conclu à quoi que ce soit, ni au suicide, ni au meurtre. Voilà, les preuves sont telles que, enfin, on ne peut pas conclure à l'un ou à l'autre.
On termine avec un morceau qui s'appelle Happiness. Un petit mot avant de se dire au revoir sur ce morceau qui annonce de la joie.
Ouais, alors c'est aussi l'occasion de dire que voilà, Elliot Smith n'était pas que quelqu'un de sombre, de la face lumineuse. Donc happiness, joie, bonheur. Bon, c'est aussi important pour lui. Voilà, en fait, à la fin de la chanson, il répète au personnage à qui il s'adresse que tout ce qu'il veut maintenant, c'est le bonheur pour toi et moi.
Bon, il n'y a pas que la tristesse, évidemment. Ça, je pense que l'émission, avec la beauté des morceaux qu'on a passés ce soir, en témoignera. Je vous remercie à tous les deux, Yann Lafosse, Mariner Thigh et Thierry Jourdain. Je rappelle le titre du livre, Elliot Smith Can't Make a Sound. C'est publié chez Le Mot et le Reste. On se quitte avec un dernier morceau qui clôturera le laboratoire ce soir. Le morceau Happiness, donc. Merci encore à vous.
Merci.
Merci.
she could do until after. When his body been buried below, way back in the day. Oh my, nothing else could have been done. Made his life a lie, so he might never have to know what he was. Made his life a lie, you know. I told him that he shouldn't upset her, and that he'd only be making it worse, involving somebody else. You're safe from yourself. And oh my, nothing else could have been done. She made her life a lie, so she might never have to know anyone. Made her life a lie.
Happiness for you and me.